Hey, yo, this is the narcissist, the Euphrates, Nomadic Massive, represent Montreal, the Basra. You're listening to the CKUT 90.3. Turn up your radios and turn off your televisions.
Hello to you all and welcome to Viewpoints. Boris Chassaigne here with you for the next 30 minutes. On today's show, Quebec's $11 billion deficit is a result of its own fiscal choices, say researchers and opposition parties.
They started off with huge surpluses. They were very generous, so they sent out checks and they went with a tax income cut. And then all of a sudden, they realized that the economic context is not what they thought.
The Alberta government spends $5 million to boost women's shelters across the province.
Because shelters are there round the clock, 24/7, to put an end to gender-based violence. They're there for those who are seeking their services, and they're also on the front lines of prevention.
Ontario farmers are bracing for unpredictable weather as spring arrives. Dams in Nanaimo, British Columbia, are in bad shape and could kill hundreds if they fail, says an expert.
The concrete is in really bad shape. Being underneath that bridge there, I've been done the inspection. There's concrete falling on you, exposed rebar, all those great things.
In Nova Scotia, the Queens County wind farm is getting closer to reality. 33 wind turbines are planned near the Mercy River in Milton, giving local residents a truly green power alternative.
It is a good thing for Queens County, and it is one that should be welcomed by people who understand green energy is the important energy.
Welcome to Viewpoints, local news nationwide.
Follow us on X at CanadaLJI. Listen to all our stories on frequencynews.ca.
Welcome to the show. Our first stop will be in Quebec today, where the Finance Minister, Éric Girard, tabled a $158 billion budget on March 19th. Spending will be up 4.6% with increased investments in education, health and social services. But along with that comes the largest deficit the province has ever seen, projected at $11 billion. Opposition parties have been critical. Parti Québécois leader Paul Saint-Pierre Plamondon linked to the record deficit to tax cuts the government made last year. And Quebec Solidaire leader Gabriel Nadeau-Dubois decried the lack of investments to fight the housing crisis and climate change. Colin Pratt from the Institut de Recherche et d'Information Socio-Économique and Éric Gingras from the Centrale des Syndicats du Québec Union talked about this year's budget and what they'd like to see going forward. More on this with Jules Bugiel in Montreal.
Quebec Finance Minister Éric Girard tabled a $158 billion budget on Tuesday. Spending is up 4.6%, including moderate investments in education and health and social services. But along with that comes the largest deficit the province has ever seen, projected to be $11 billion. This deficit stems from a difficult economic and climatic context, but it's also necessary to improve right away services to the population. It's necessary and it's manageable. But Colin Pratt, a researcher at the Montreal-based Institut de Recherche et d'Information Socio-Économique, says the economic context is only part of the story.
There are two factors that are contributing to this deficit. First one is the economic context, the rise of the inflation and the slowdown of the economic growth lowered the revenues of the state of Quebec. So it explained partly the reason why we have a deficit of $11 billion for this budget. The other reason, and this one is interesting, is because of the choices of the government itself made in the last years about the fiscality, that the taxes were lowered last year.
One example he's talking about here is from last year's budget, where the Coalition Avenir Québec lowered the threshold for the first income tax bracket from 15 to 14%, and from 20 to 19% for the second.
So that 30% of the deficit we now face is directly caused by the revenues that the government does not have now because he decided to lower the taxes of the population. It's a choice. It's a political one. And now, today, the government faces the consequences of its own decisions.
It's a sentiment echoed by the opposition, too. Here's Parti Québécois leader Paul Saint-Pierre Plamondon.
I think they're under pressure. They started off with huge surpluses, and they were more than optimistic. They were very generous, so they sent out checks and they went with a tax income cut. And then all of a sudden, they realized that the economic context is not what they thought. They never had the gains with the federal, so there are billions are lacking. So they're trying to balance this budget as they can, but there's no guarantee that we will reach 100 million next year and 200 million the next year in efficiency. But the real issue for the election will be, okay, 8 years, what's up with all the key crises that you were supposed to fix? And you see the budget, there's not much. So the chances are it's going to stay as critical as it is right now.
A debt always has to be put in relation to the GDP of a country, of a state. Well, Quebec has a lower debt to GDP now than prior to the COVID crisis. So in terms of debt, we're not in a bad situation. So right now, the priority of the government should not be to go as fast as possible to a net budget where there would be no deficit, but it should rather be to make sure that the public services are finally getting better after such bad years in the last years. Yeah.
Now, the budget does have some big-ticket investments in health and social services, where spending saw a 4.2% increase, and education, which got a 9.3% jump. But RBC economists say other areas of public spending saw a decline from last year, including infrastructure and social housing, which they say fell 4.9%. Québec Solidaire leader Gabriel Nadeau-Dubois says that needs to change.
The government said it's going to be healthcare and education. Well, one thing is missing. It's housing. In the middle of the worst housing crisis in 40 years in Quebec, it should be a priority to build more homes. The other thing we should do is invest massively in public transit. Today, there has been not one new public transit project funded and launched by the Coalition Avenir Québec. Not one project across all Quebec. It's unacceptable.
Last fall, Montreal's Regional Transit Authority, the ARTM, announced a major five-year deficit. Quebec agreed to cough up around $250 million of what was needed to keep buses and trains running this year, but hasn't made any new announcements since.
Just for this budget, the public investment in roads have risen of 10%, while public investment in public transit only rose of 0.29%, so less than 1%. So in terms of mobility and viability of the mobility of the population, it's bad news.
Even in the areas that saw the largest increases, the numbers don't necessarily tell the full story. Here's Eric Chanclat, head of the CSQ union, which represents over 200,000 public sector workers in the province. They work primarily in education, which saw the largest increase out of any public sector category.
It is 9.3% for this year. If you count in it the money that has been saved with the strikes that happened a few months ago, yes, it comes up to a 9.3 increase. But if you put that aside, because that amount have been a bunch of that amount, around 300 million, have already been injected for kids to have a follow up after all the strikes. The real number is 6.7% increase in education. That's the real number. And if you take this number, it still only finance the maintenance of services. it's a number. It's a big number. It's close to a billion. So you could say, oh, there's the investment. But the real deal is that it's money that was announced back in November, and that's going to be continued next year.
Last fall, around 500,000 public sector workers went on strike, winning around 17% salary gains over 5 years. But they were also asking for more public sector investment to get hospitals and schools back to pre-COVID capacity. After this budget, they say they're left looking to the years ahead.
There's investment, not enough, because people want better services, but still, now the focus is on next year and the year after to be sure that we're not going back to history.
I'm Jules Pujol. Thanks for listening.
You're listening to Viewpoints with Boris Sassang.
Women's shelters in 17 different communities throughout Alberta are getting $5 million from the provincial government to help bolster their services and increase their capacity. The government made the announcement on March 19th. The communities of Banff, Brooks, Calgary, Camrose, Cochrane, Cold Lake, Edmonton, Fairview, Fort McMurray, and Grand Prairie are set to receive funding, as are those of High River, Lloydminster, Morinville, Rocky Mountain House, Sherwood Park, St. Paul, and White Court. According to the provincial government, Albertans can get 24/7 support by calling or texting the Family Violence Info Line. Support is offered in more than 170 languages, including all Indigenous languages spoken in Canada. Details with Ryan Hunt in Edmonton, Alberta.
Shelters in Calgary and Edmonton getting some help, as well as shelters in Fairview and St. Paul in the north, and High River and Brooks in the south. Jan Reimer, the CEO of the Alberta Council of Women's Shelters, spoke on the importance of the funding that is a step towards putting a stop to gender-based violence.
It's been 10 years since women's shelters had any kind of an increase. So if you look back over that decade, we've seen population growth, we've seen inflationary pressures, we've weathered a pandemic, we're seeing increased demand, so we know how needed this funding is. And I know it means a great deal to our members and the staff and the boards that support them, because shelters are there round the clock, 24/7, to put an end to gender-based violence. They're there for those who are seeking their services, and they're also on the front lines of prevention.
For the funding aspect, $5 million will be split between all of the shelters immediately, and another $5 million will be given out over the course of the next 3 years. I'm Ryan Hunt.
Don't forget to tune in to all our stories on frequencynews.ca and write radio at frequencynews.ca, radio at frequencynews.ca.
Hey, I'm Anastasia Abakumova in beautiful British Columbia, and you are tuned to Viewpoints.
Last Monday and Tuesday were very popular days in Canada and in Nova Scotia's South Shore as well. Not only because spring arrived, this time because councillors of the Region of Queens approved a development agreement on March 19th to allow a large-scale wind farm to go ahead in Milton, Nova Scotia. This means that Queens County residents are one step closer to a purely green electricity option. Halifax-based Rosewall Development Inc., the owners of Mercy River Wind, plans to build 33 wind turbines on about 80 hectares of crown land near the Mercy River. Rosewall Inc. promises to sell power from the wind farm directly to consumers and adds its power rates would be lower than Nova Scotia Power's. David Howell, Rosewall's chief financial officer, says he hopes the development will be up and running by the end of 2025. Rick Conrad in Liverpool, Nova Scotia has more details on the plan.
Queens County residents got one step closer on Tuesday to buying their electricity directly from wind energy. Region of Queens councillors approved a development agreement to allow a large-scale wind farm to go ahead in Milton. Halifax-based Roswell Development Inc., the owners of Mersey River Wind, plans to build 33 wind turbines on about 80 hectares of Crown land near the Mersey River. Roswell promises to sell power from the wind farm directly to consumers, bypassing Nova Scotia Power, under the name Renewall Energy. It will offer electricity to large customers on the South Shore first, and then to residential customers. The company says its power rates would be lower than Nova Scotia Power's, and the project is expected to employ 100 people temporarily. The company says it could employ up to 12 people full-time after the farm is up and running. David Howell is Roswell's chief financial officer. He was at the council meeting on Tuesday.
We will be delivering the electricity across Nova Scotia Power's grid, paying for the use of the grid, essentially. And people will have a choice by the time we get to, I hope, the end of 25, to buy their power either from Nova Scotia Power or directly from our retail company.
Roswell is the first in the province to be awarded a license to sell power directly to consumers under the Renewable to Retail program introduced by the provincial government in 2015. Under the municipality's land use bylaw, large-scale wind developments are not automatically allowed in the area as it's currently zoned, so the company had to apply for a separate agreement with the municipality. As part of that process, the municipality held a public hearing on Tuesday morning before its regular council meeting. Only one member of the public spoke against the project. A Milton resident was concerned about the proximity of the turbines to houses in the area and an effect known as shadow flicker. That's essentially the shadow cast by the turbines on properties on a sunny day. Mitch Underhay is Roswell's development manager. He said after the meeting that all homes are at least 2 kilometers away from the development, and one woods camp is about a kilometer away, but the company has reached an agreement with that landowner.
And that's part of the environmental assessment process, is that the shadow flicker gets modeled. And there are limits of basically how many hours per year and minutes per day the shadow flicker can land on a receptor, which is usually a home. All of the homes around Milton are well outside of that, so they shouldn't experience any shadow flicker at all.
The owners of two concrete companies spoke in favor of the development agreement. Bridgewater Ready Mix and South Shore Ready Mix hope to win some work with the project. Joel Weston, president and owner of Bridgewater Ready Mix, told councillors there are many advantages to the project: local jobs, greener energy, and potentially lower power rates.
We in the ready mix industry also have a commitment to net zero, and to achieve that we need renewable power, and we intend to become customers of the Mercer River Wind Project once it starts.
Mayor Darlene Norman said the project could eventually generate up to $800,000 a year in tax revenue for the municipality.
It's a great development agreement. It's been several years in the making, many public meetings. It is a good thing for Queens County, and it was wonderful to have 100% approval from council on this matter. It's a big project for Queens, and it is one that should be welcomed by people who understand green energy is the important energy.
Securing the development agreement with Queens County was one of the last steps before the company can begin construction. Howell said they're in the final stages of working at a lease agreement with the province for the Crown land in Milton. The development agreement approval is still subject to an appeal process until April 4th. Howell said they hope to begin construction by this summer.
Thanks to Rick Conrad.
Do you have questions or comments? Our email is radio@frequencynews.ca.
You're listening to Viewpoints.
Unpredictable and unseasonable weather continues to mark the forecast in Ontario. The Wellington Federation of Agriculture and their president, Barclay Knapp, are preparing for whatever Mother Nature throws their way. Knapp says it may be too soon for summer prediction as far as the quality and yield of crops, but he says adapting to changes in weather is crucial for local farmers. The ideal weather for Knapp, that would be temperatures similar to the week of March 18. So, as spring gets off to a cold start, following a warm winter, Riley Gillespie-Wilson in Fergus, Ontario, caught up with Knapp to learn more about the local perspective of the local federation heading into spring.
With spring starting Tuesday and erratic weather patterns continuing to dominate the forecast, the Wellington Federation of Agriculture is bracing for anything that comes their way. President Barclay Knapp says whether the strange weather will have any bearing on crop yield this summer is tough to decipher.
It is too early to tell. As a friend was reminding me, the last 2 years have been a little weak for hay production because last year was too wet. You couldn't get the hay off. The previous year, there was too little moisture, so hardly anyone had enough hay to cut. It didn't really grow. It's too early to tell because the weather could significantly shift.
Knapp added, with the mild winter can come a lack of ground moisture and pests that don't go away. In Knapp's mind, the best possible scenario would be trends in the forecast similar to this week.
Right now, perfect forecast. I would say, rain or snow, once a week to help build up the soil moisture and get ready for spring. Maybe about this temperature we have right now, not too harsh, not flooding us, and just not too cold that we can be out in our machine shop.
Knapp went on to say the early portion of summer has also been radically different since he was a youth.
I know the last two Mays, we've had a lot of good luck in Ontario and Wellington County, where most people by the May long weekend have had their corn all planted. And I can remember when I was younger, that May long weekend, that's when we had the big push on our farm to finish picking rocks so corn could get planted the next week.
Learning to adapt to extreme shifts in weather is key, Knapp says. He added Wellington County, a very diversified farm industry, supplies hefty portions of Ontario's crops. I'm Riley Gillespie-Wilson.
And we'll close up shop this week in British Columbia, where a dam safety engineer told the Nanaimo City Council that there would be serious consequences if dams that the city owns and maintains were to fail. David Bonnet, a senior hydrotechnical engineer with Hatch Limited, said at Monday's Governance and Priorities Committee meeting that he is concerned that at least two of the city's 10 dams could fail if an earthquake hit the region. The story by Mick Sweetman in Nanaimo, British Columbia.
We are majorly concerned about that Middle Colliery Dam because it has been found to be susceptible to a seismic and has been out of compliance with the regulation for a while. And South Fork is actually one that we know is extremely vulnerable.
In the Nanaimo, the 10 dams in the city range from low to very high for the level of consequence if one were to fail. The old Reservoir Number 1 dam, which was emptied about 9 years ago, sits at low, but the Jump Creek, South Fork, and Lower Colliery dams are categorized as having very high levels of consequence in the event of a failure. That means if the dam fails, up to 100 people may die from the flooding, damage to the infrastructure and the city's economy would be very high, with severe damage to residential areas, and significant loss of environmental or cultural values would be impractical to restore. As the owner of the dams, the city would be liable for any damage or loss caused by the failure of a dam if one were to fail in a way that could have been detected and prevented. The Middle Colliery Dam is categorized as a high consequence dam. That dam has been under an order to bring it up to provincial standards.
Honestly, I mean, as a dam safety engineer and a dam engineer, I really like this dam, even from an aesthetic point of view. And it's got a lot of history. So it's actually a really important recreational, historical, cultural, and natural space for the city. It's quite well used. It's a really neat space. I really like it. But there are some challenges. We need to perform some maintenance to preserve the dam. You can see in the picture on the right, The concrete is in really bad shape. Being underneath that bridge there, I've been done the inspection under there. There's concrete falling on you, exposed rebar, all those great things. And we need to do some of this restoration slash maintenance work with also respecting the public users' wants and needs, because we do understand that this is an important space. And frankly, I do want to preserve it for future generations because it is a big part of your history. We also know that there's a strong community desire to preserve these types of spaces, including the lower colliery also. But there are some realities we have to face.
Bonin says he has personally inspected the condition of Middle Colliery Dam.
The concrete side of it is in advanced state of deterioration. We also know that the spillway is undersized. It's been that way for a while. And unfortunately, the regulator also knows this and has really been pushing us really hard to try and address these issues for a number of years, and we've been working on that also.
Bonin says that while the consequences of a dam failure would be very serious, the city also needs to make sure that people who use the dams as swimming and fishing spots are safe too. He says there's been over 300 documented deaths at dams in Canada, compared to 11 deaths from dams failing in the past 100 years.
Dam safety looks at failure of dams and losing containment of structures, but public safety is more the day-to-day operation. How do we guide the use of our dams safely? We know that people use our dams, people recreate near them, but they're also not really aware of a lot of the hazards that they may be facing, and that's a big problem.
Mike Squire, the city's manager of water resources, says the city has taken steps to ensure the safety of people who use the lakes and reservoirs for recreation.
We've had many deficiencies that we've been trying to address over the last several years that need to get done to satisfy not only dam safety requirements, but ensure that we're protecting the public. A lot of fencing and signing has been put up over the last couple of years, and then the spillway boom was extended on the middle colliery, or pardon me, the lower colliery dam.
Bill Sims, the city's manager of engineering and public works, said Monday's presentation was to remind council and the public of the ongoing risks with dams in the city.
Part of the rationale today is to introduce the whole topic, not only to council, but also the public. And just to, this is a refresher. We're back again, you know, and certainly previous efforts were concerning for the public, and we acknowledge that.
This is Mick Sweetman.
At Viewpoints, our reporters were Jules Bougiel, Mick Sweetman, Ryan Hunt, Riley Gillespie-Wilson, and Rick Conrad. Thanks to our national editors, Victoria Fenner and Maureen McEwen. Viewpoints is produced by the Community Radio Fund of Canada. Don't forget to write. We love to hear from you. Our email is radio@frequencynews.ca. I'm your host and producer, Boris Hassan. See you next week. Ciao.
CKUT's annual funding drive is back and taking place from March 15th to 24th, 2024. We have exciting new merch available for our donors, including t-shirts, tote bags, mugs, magnets, and posters. Thanks to the generosity of this year's sponsors, you'll get a chance to win goodies from your favorite local businesses, festivals, and more, with every donation $35 or above. This year's sponsors include Pop Montreal, Cinema Public, Constellation Records, Mutech, Festival du Nouveau Cinéma, Encore Books and Vinyl, RIDM, CNL Cycle, Adam Hart, Just Seeds, Lola Rosa, Putting Edge, Drawn in Quarterly, Death of Vinyl, La Rama, La Seltzer, Dispensaire Microbrasserie, Lou Guillaume, Pizza Bouquet, and Paragraph Bookstore. CKUT would like to thank our sponsors for supporting another year of people-powered community radio. For more details on prizes and to donate, go to ckut.ca/donate.
Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne avec vous pour la prochaine demi-heure. Aujourd'hui, on a fêté la Saint-Patrick comme il se doit le week-end dernier à travers le pays, y compris à Miramichi où le spectacle de Saint-Patrick est une tradition depuis maintenant 30 ans.
J'ai grandi avec ça, j'adorais la danse depuis longtemps. Vous voyez les visages des enfants là, quand ils étaient en train de danser, comme leur visage était comme juste brillant et ça touchait ma cœur.
La semaine de la francophonie est lancée en grande pompe à Toronto et avec tout le gratin de la francophonie.
C'est surtout une semaine qui met en lumière la richesse de la francophonie. À Toronto, c'est beaucoup de diversité, alors ça s'exprime avec beaucoup d'accents. C'est une semaine, je dirais, qui donne de l'énergie pour l'année qui vient.
Les députés du Manitoba se votent une augmentation de 3,5 %. Rien de comparable à celle du Québec. Les réactions sont mitigées.
Si on veut faire de l'argent, aller en politique, c'est pas le chemin le plus facile. En fait, on sait même très bien que plusieurs des chefs de cabinet qui travaillent pour les partis politiques qui ne sont pas élus vont gagner beaucoup plus que les élus.
Le printemps est officiellement arrivé, même s'il avait pris de l'avance dans bien des régions du pays. Et avec lui, le temps des sucres, Marie Hillès a été s'y régaler.
C'est vraiment notre événement fort. Ça culmine un peu notre saison des sucres aussi à chaque année. Et c'est une tradition qui existe ici à Vanier depuis 39 ans.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Suivez-nous sur X @CanadaLJI.
Merci de nous tenir compagnie encore cette semaine. On lance l'émission à Toronto où on a célébré en grande pompe le lancement de la Semaine de la francophonie. Vous savez que le mois de mars est aussi celui du mois de la francophonie. Une foule de dignitaires de la francophonie torontoise et du Québec ont convergé vers la ville reine pour assister au dévoilement de sa programmation. Parmi eux, le ministre québécois responsable des relations canadiennes et de la francophonie canadienne, Jean-François Roberge, la lieutenante gouverneure générale de l'Ontario, la sous-ministre des Affaires francophones de l'Ontario, le commissaire au service en français de la province et les représentants de la France et de la Belgique. Jean-François Roberge, donc ministre québécois responsable des relations canadiennes et de la francophonie canadienne, a employé les termes de franco-énergie et de franco-curieux lors de ce lancement. Lancement qui s'est déroulé à l'Agora de l'Université de l'Ontario français, en compagnie du recteur de l'institution, Pierre Ouellette, qui a dit espérer que cette semaine puisse faire des francophones une communauté solidaire. Voici ce que Marine Autogali à Toronto nous a ramené. Elle est d'abord en compagnie de la lieutenante-gouverneure de l'Ontario.
Madame Edith Dumont, lieutenante-gouverneure, la dernière fois que vous les avez croisés, c'était une première pour vous, mais j'imagine que cet événement aussi est une première pour vous?
Oui, chaque jour, c'est des nouvelles activités. Celle-ci, elle représente quand même quelque chose d'extrêmement important parce qu'on a une semaine de célébration pour la francophonie. Alors, j'étais ravie d'être ici et de participer au lancement de la Semaine de la francophonie à Toronto.
J'allais dire, justement, vous présentez beaucoup d'événements. Vous avez des visages familiers dans la francophonie que vous avez pu retrouver dans cette salle?
Oui, je connais beaucoup de monde à Toronto parce que ça fait quand même presque 4 ans que j'y habite. J'ai occupé d'autres fonctions préalablement à celle de lieutenant de gouverneur. Alors, évidemment, quand on se retrouve avec la francophonie à Toronto, on se sent toujours un peu en famille et ça fait du bien. Alors, encore une fois, je suis très, très heureuse d'être ici ce soir.
Est-ce qu'il y a un côté militant aussi au sein de cette semaine de la francophonie?
C'est surtout une semaine qui met en lumière la richesse de la francophonie. À Toronto, c'est beaucoup de diversité, alors ça s'exprime avec beaucoup d'accents. C'est très coloré dans les activités, dans l'ensemble des diversités qui vont se rassembler tout au long de la semaine. Mais je dirais que c'est une semaine qui est énergisante. Alors, pour un francophone qui vit en milieu minoritaire, c'est comme un grand moment en famille. On ressort avec beaucoup de fierté et on a juste envie de continuer à parler français, à avoir des spectacles en français, à aller au cinéma en français. Alors, c'est une semaine, je dirais, qui donne de l'énergie pour l'année qui vient.
Et à Queen's Park, où sont vos bureaux? Est-ce qu'on en a parlé? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier pour la semaine de la francophonie ou c'est une semaine de travail comme les autres?
Tout est particulier. Il y a toutes sortes de semaines, il y a toutes sortes de célébrations à Queen's Park. Et évidemment qu'on célèbre déjà la semaine de la francophonie, la Journée internationale de la francophonie. J'accueille un groupe de jeunes fonctionnaires. Je crois que c'est mercredi. Aujourd'hui, je suis ici. Alors, il y a des choses dans la communauté, mais il y a aussi des choses dans les appartements de la lieutenante-gouverneure.
Jean-François Roberge, ministre de la langue française, responsable des relations canadiennes et de la francophonie canadienne. Dans votre discours, vous avez laissé entendre que vous allez à pas mal de cérémonies de célébration de la francophonie. Est-ce que c'est un événement où vous vous rendez effectivement à travers le Canada?
Bien, cette semaine, j'ai fait Winnipeg, Toronto, puis je m'en vais à Québec ce soir parce que c'est le mois de la francophonie. C'est la semaine de la francophonie à Toronto. C'est aussi bientôt la journée québécoise de la francophonie canadienne. Bref, c'est la fête du français à la grandeur du Canada en ce moment. Et puis, je voulais faire un maximum de rencontres enrichissantes.
De votre point de vue, du point de vue de votre ministère, quelle est la francophonie? À quoi ressemble la francophonie à Toronto?
Je vous dirais que c'est une francophonie très diversifiée, très riche. Il y a beaucoup de gens qui sont ici par affaires. Il y a d'autres personnes qui sont ici pour la culture. Et c'est différent de ce qu'on retrouve ailleurs. J'arrive de Winnipeg, beaucoup de métis francophones. Lorsque je vais dans les provinces de l'Est, on a beaucoup d'Acadiens. Donc, Toronto se distingue et c'est très bien comme ça parce que je dis souvent qu'il y a des francophonies canadiennes et chacune a sa couleur.
Qu'est-ce que vous identifieriez comme, justement, enjeu propre à Toronto éventuellement pour les francophones qui vivent ici par rapport à d'autres francophonies, vous qui avez un regard un peu pan-canadien?
Ce que je vois, c'est qu'il manquait quelque chose et là, on l'a. Il manquait une université réellement francophone ici, dans le cœur de Toronto. Et là, ce que je dis, c'est que les Ontariens se sont fait un cadeau. C'est un fleuron maintenant. C'est un acquis. Je pense pas vraiment maintenant qu'il y aura plus jamais aucun recul. La question, c'est jusqu'où vont-ils aller dans leur projet d'expansion? Puis on voit déjà que le nombre d'étudiants risque de tripler dans les prochaines années. Donc, il y avait un besoin pour ça.
Là, on touche un sujet sensible, notamment les universités francophones en Ontario, dont celle de Sudbury, qui n'a pas eu le financement espéré. C'est quelque chose que tous les Ontariens espèrent encore, mais aujourd'hui, à Toronto, est-ce qu'il y a des challenges, il y a des défis plus gros qui sont identifiés et que vous discutez au gouvernement, que ce soit d'ailleurs Toronto ou le reste de la francophonie hors Québec?
Bien, je prends de garde parce que mon travail comme ministre québécois, c'est pas de faire la leçon à mes collègues dans les autres provinces, aux autres gouvernements. Moi, j'arrive avec une attitude, une démarche de partenaire. Je suis un allié des communautés francophones, mais je suis aussi un allié de mes collègues, les ministres responsables de la langue française dans chacune des provinces. Et il y en a. Ici, on a Mme Mulroney, avec qui j'ai une très, très bonne relation. Et puis, c'est un dialogue qu'on a en continu pour voir comment on peut améliorer la place que prend le français dans toutes les provinces.
Pierre Ouellet, ce soir, on est réunis à l'Université de l'Ontario français. Est-ce qu'on a déjà vu autant de personnalités du monde politique, des affaires et de la culture réunies en une seule pièce?
C'est le début de la semaine de la francophonie, c'est toujours, je pense, un rassemblement très important du leadership de la communauté francophone de Toronto. C'est remarquable, effectivement, mais il faut aller plus loin. C'est bien d'avoir les leaders de la communauté avec nous pour une soirée,
mais il faut aussi accueillir la communauté francophone dans nos activités. Donc, il y a beaucoup été question de ça ce soir. Le ministre Roberge en a beaucoup parlé, d'être des ambassadeurs et des ambassadrices de tout ce qui se passe en français dans notre milieu. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de leaders francophones ici ce soir, mais c'est la communauté aussi qu'on veut embarquer dans tout ce qu'on fait.
Je m'appelle Mélanie Anthony, je suis consultante en communication et marketing.
Qu'est-ce que tu es venue faire à cette cérémonie de lancement de la semaine de la francophonie où on a vu un tas de dignitaires prendre la parole?
Je pense qu'au niveau du réseautage, il y a beaucoup à faire en termes de communauté francophone. Et c'est toujours bien de venir rencontrer des personnes qui sont très impliquées, que ce soit dans les institutions académiques, autant que dans d'autres organismes. Et pour moi, c'est toujours bien de vraiment être ouverte à la rencontre de différentes personnes qui sont impliquées. Moi, je suis plus impliquée au niveau communautaire. Donc, c'est bien de pouvoir faire le lien entre les gens qui sont impliqués dans différents organismes à différents niveaux et après avec la communauté francophone. Surtout au niveau intersectionnel parce que je représente des personnes qui sont racialisées, qui sont de différentes régions d'Afrique. Moi, je suis de l'île Maurice. Et donc, pour moi, c'est bien de faire comprendre que la francophonie, elle est beaucoup plus large que juste le Canada ou le Québec. Et c'est tous les gens qui immigrent d'Afrique ou de d'autres régions des Caraïbes qui font partie aussi de la francophonie.
Et est-ce que tu vas aller à quelques événements qui sont organisés au cours de la semaine dont on a parlé?
J'espère. Là, je viens d'entendre qu'il y avait un événement dimanche. Moi, ça m'intéresserait bien de rencontrer un peu de nouvelles personnes et puis de voir des activités que je n'ai pas forcément faites, comme le truc de la cabane à sucre. Là, je ne savais pas que ça allait avoir lieu. Donc, moi, ce serait intéressant. Ouais.
C'était un reportage de Marine Otogali dans le cadre d'Initiative Journalisme Local.
Marine, qui, comme toujours, aime bien sortir de son studio et se promener à travers la ville reine, elle était aussi au Salon du Livre de Toronto. L'auteur Gaston Mabaya y était pour signer son dernier recueil de poésie. Retrouvez cette entrevue sur fréquenceinfo.ca.
Bonjour, ici Julie Lesalliers au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue.
La mucheuse Florence Chat remporte la Chic Choc en Gaspésie. La meneuse de chien Florence Chat remporte donc la dernière course de traîneau de chien de la saison. L'événement se tenait en Gaspésie le week-end dernier. La Chic Choc est une course internationale de traîneau à chien de moyenne distance. La fermentoise de 18 ans participait avec son attelage de chien à l'épreuve du 150 000, donc sur près de 240 km de sentier. Un autre fermontois, Jonathan Tomaso, a également pris part à la course, mais dans la catégorie du 45 000, 72 km. Elisabeth Seguin nous en parle sur fréquenceinfo.ca. Les 57 élus provinciaux du Manitoba verront leur salaire annuel augmenter de 3,5% dès le mois d'avril prochain, passant ainsi de 102 988 $ à 106 602 $. Une décision qui fait débat parmi des experts et la population. Les députés de l'Assemblée nationale du Québec s'étaient votés eux aussi en 2023 une augmentation de salaire, mais de 30 000 $ l'an. Le salaire annuel de base au Québec est passé de 101 561 $ à 131 766 $. L'affaire avait bien sûr fait grand bruit. Gaëlle Mpoyo à Winnipeg, au Manitoba, en parle avec Félix Mathieu, professeur en sciences politiques à l'Université de Winnipeg. Monsieur Mathieu qui a qualifié cette hausse de raisonnable, pondérée et nécessaire pour stimuler l'engagement politique.
Alors, chaque fois que les élus augmentent leur salaire, soit qu'ils le votent directement ou qu'on demande à une agence
tierce, un comité de se pencher là-dessus, ça vient toujours avec une certaine inquiétude ou questionnement du côté de l'opinion publique. Ah, mais pourquoi eux obtiennent une hausse de salaire si moi, dans mon travail, je ne l'obtiens pas? Donc, cette première réaction qu'on entend assez souvent, mais également une réaction qu'on va entendre, c'est ben, plutôt que d'utiliser cet argent-là et de se la mettre dans les poches, les politiciens seraient mieux d'investir cet argent-là pour le développement des politiques publiques. Dans les deux cas, ce sont, selon moi, des mauvais arguments sur le plan rationnel, en ce sens où, lorsqu'on regarde la hausse de salaire de 3,5% ici, ben déjà, c'est raisonnable, donc c'est pas une hausse spectaculaire, mais également, si on prend le concret, cette hausse de salaire-là, pour 57 députés, on parle d'environ d'un peu plus de 200 000 $ par année que ça coûte au Trésor public. Et avec 200 000 $ par année, on ne peut pas investir de manière significative dans aucune politique publique. Et donc, ce n'est pas choisir le salaire des députés aux dépens d'une autre politique publique. Et ce n'est pas la même chose non plus de comparer la hausse de salaire des politiciens élus, des membres de la fonction publique, par exemple, que ce soit les infirmières, les enseignants, où là, on compte des employés de la fonction publique par milliers. Et donc, une hausse de salaire de 3,5-5%, ça a des effets beaucoup plus considérables sur le trésor du Manitoba, alors qu'ici, ben, c'est pour 57 personnes au final.
Mais qu'en est-il de son impact sur le futur candidat au poste d'élus provinciaux? Félix Mathieu répond.
Je ne crois pas, parce que c'est trop marginal. Si on parlait d'une hausse de 50%, ben, peut-être que là, il y en a qui se diraient, même en début de carrière, ben, ça vaudrait la peine si je parviens à me faire élire et si je peux être là pendant 8 ans, avoir une pension de retraite, etc. Ben là, ça devient très, très encourageant. Mais à 106 000, 107 000 $ par année, à cela s'ajoutent évidemment des primes si on est premier ministre, si on est chef de l'opposition, si on est ministre ou whip dans un parti, un ensemble de responsabilités qui s'accompagnent de primes salariales. Mais si on veut faire de l'argent, aller en politique, c'est pas le chemin le plus facile. En fait, on sait même très bien que plusieurs des chefs de cabinet, des membres politiques partisans qui travaillent pour les partis politiques qui ne sont pas élus vont gagner beaucoup plus que les élus. Même chose pour les chefs, les leaders des sociétés de la couronne. Travailler pour Hydro Manitoba, on gagne beaucoup plus d'argent que le premier ministre du Manitoba.
D'après Félix Mathieu, cette hausse de rémunération permettra aux députés du Manitoba de se positionner au niveau de la moyenne salariale des élus à travers le pays, se rangeant entre leurs homologues de la Saskatchewan et les élus québécois, le mieux payé au Canada. En revanche, les élus des Lules du Prince-Édouard se retrouvent en bas de l'échelle salariale avec un revenu annuel notablement plus bas. Winnipeg, Gaël Pouillot pour IGL.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chitika en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue.
L'équinoxe du printemps nous est tombé dessus la semaine dernière et avec lui, la sève des érables qui coule comme un torrent à travers le pays de l'érable, y compris dans la seule cabane à sucre au milieu urbain au Canada, située dans le quartier Vanier à Ottawa, le muséoparc Vanier, qui a inauguré sa nouvelle cabane à sucre en mars 2023, donc l'année dernière. Marie Laisse se fait un devoir d'aller s'y sucrer le bec chaque année, donc au Festival des sucres qui se tient à Ottawa du 18 au 24 mars au parc Richelieu, le festival qui célèbre en fait les traditions de la saison des sucres. Ce festival, inauguré il y a 39 ans, permet aux visiteurs de se familiariser avec la production artisanale du sirop d'érable dans la seule cabane à sucre urbaine au pays et de profiter des belles tablées du temps des sucres servies sous un grand chapiteau. Marie Hillès à Ottawa, en Ontario.
Cette semaine, c'est le Festival des sucres au musée au parc Vanier. Un événement familial, communautaire et gratuit pour tous. Annick Normand, gestionnaire des communications et du marketing.
On est très fébrile, on a hâte que ça commence. Ça fait tellement longtemps qu'on planifie qu'on veut vraiment que ça se concrétise et qu'on le vive pleinement. C'est vraiment notre événement fort. Ça culmine un peu notre saison des sucres aussi à chaque année. Et c'est une tradition qui existe ici à Vanier depuis 39 ans. Je pense que ça a été établi par Mme Gisèle Lalonde dans les années 80. Et puis là, on continue on perpétue cette tradition-là pour les gens de la communauté. Puis c'est juste un petit baume de plus pour finir la saison, puis vraiment d'offrir aux gens un festival gratuit qui met aussi en scène la seule cabane à sucre active en milieu urbain au pays. Donc, c'est quelque chose dont on est fiers.
Annick mentionne quelques pépites de la programmation.
Comme l'année passée, le vendredi soir, on a décidé de faire une soirée canadienne. Donc, on a Louis Racine qui vient faire un spectacle de musique au Centre Pauline Charron à partir de 17h30. Le billet comprend le repas et la soirée d'ensemble. Donc, c'est 15 $, c'est vraiment pas cher. Il reste encore des billets si vous voulez retrouver ça. Ça a été un énorme succès l'année passée, donc c'est pour ça qu'on l'a reconduit. Par la suite, durant le week-end, ben, on invite vraiment là, les familles, les gens à venir au festival pour profiter des nombreuses activités qu'on a, soit venir manger un repas sous le grand chapiteau avec de la musique. On a une super belle programmation musicale qu'on a travaillée avec la CIMO cette année. On a Louis Racine qui est encore là, on a Sugar Crush, on a Wise Atangana, on a McKenna qui vient faire un numéro aussi de Cerceau. On a Chantal Trottier, Sophie d'Orléans, Serge Monette. Donc, une belle brochette d'artistes d'ici. Ces spectacles-là sont gratuits, on veut le dire. La seule chose qui est payante vraiment sur le site, c'est les repas. Puis une des nouveautés qu'on a cette année, c'est on a aménagé un beer garden, étant donné qu'on a fait un partenariat avec Orleans Brewing Company qui font leur bière à l'érable avec notre eau cette année. On a décidé de donner un petit peu plus d'espace aux gens pour pouvoir consommer à l'extérieur, pas simplement en dessous de la tente.
Dans le bureau à côté d'Annick travaille Sarah Gautreau. Elle vient de la France. Elle est stagiaire.
Je suis stagiaire en communication marketing. Je m'occupe de tout, de faire la communication de la cabane, du musée, du festival.
Est-ce que tu sens une différence entre la culture canadienne en parlant d'organisation d'événements ou en parlant de stage et la culture française?
J'ai pas non plus énormément d'expérience dans l'entreprise, dans la vie professionnelle. Mais de ce que j'ai pu voir, j'ai l'impression que l'organisation, c'est un peu plus, je dirais, cool, je sais pas. Après, je pense que c'est aussi le musée, qu'on est très, très familial entre nous. Il y a une très bonne ambiance et je trouve que c'est très positif dans la manière de travailler, c'est très bienveillant.
Qu'est-ce que tu vas apporter avec toi après ton stage?
Je vais apporter déjà du sirop d'érable, ça c'est sûr. L'ouverture d'esprit multiculturalisme, c'est quelque chose qui est très présent ici au Canada et je pense qu'en France on l'a d'une manière différente, je pense, et c'est quelque chose que je vais garder quand je vais arriver en France.
Le Festival des sucres de Vanier se déroule du 18 au 24 mars au parc Richelieu. C'était un reportage de Marie Hillès pour IGL à Ottawa.
Bonjour, ici Adèle d'Halifax en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue.
Écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca. radio@fréquenceinfo.ca.
Et pour conclure l'émission, on prend la direction du Nouveau-Brunswick. La troupe de danse Nelson Doyle y a présenté son traditionnel spectacle de danse irlandaise. C'était pour l'enseignante Hélène McDonald l'occasion de partager une partie de son héritage le jour de la Saint-Patrick. Le théâtre du Carrefour Beausoleil était d'ailleurs plutôt bien rempli pour ce spectacle d'une heure et demie, au cours duquel quelques 80 danseurs de différents niveaux, âgés de 3 à 21 ans, ont tout donné sur scène. La troupe de danse aura congé pour la semaine, mais les pratiques reprendront dès la semaine prochaine en vue des futures productions, parmi lesquelles figure le Festival de culture irlandaise en juillet prochain. Vincent Lavoie est à Miramichi, au Nouveau-Brunswick, en compagnie d'Hélène McDonald.
Hélène McDonald, vous êtes la personne qui a organisé, si je puis dire, cette journée-là, ce spectacle-là de danse pour la Saint-Patrick. Tout ça, ce spectacle-là, c'était vraiment impressionnant. Évidemment, un beau travail derrière tout ça. Le temps derrière ça, combien de temps ça a pris?
J'ai beaucoup de pratiques de différents niveaux. Et on a pratiqué environ quand nous sommes prêts pour un concert, on avait pratiqué chaque soir. Mais mes danseurs savent bien ce qu'ils ont besoin de donner leur temps, ça c'est leur vie, la danse, mais là. On a besoin des différents niveaux. Si vous voulez être comme une de mes avancées, ça, c'est plus de travail que les autres, mais c'est un choix ce qu'ils peuvent faire pour eux-mêmes.
Puis combien de danseurs vous avez au total dans votre
maintenant,
troupe?
On a environ comme 80.
80 quand même.
On commence à l'âge de 3 ans jusqu'à 21.
21, OK. Donc après on va à un autre niveau, etc.
Oui, les différents niveaux. Et les différents niveaux ont les différentes pratiques, comme il y a un groupe qui va... Il y a un groupe qui va les lundis soirs et il y a les autres qui vont les mardis soirs. Les mardis soirs comme sont pour mes élèves qui sont tellement comme déterminés et sérieux.
Mm-hmm. Puis pour votre cas, évidemment, vous l'aviez dit, là, vous avez raconté vos racines, etc. Vous avez un bon français. Ça
merci.
Vient d'où, ce français-là?
J'ai grandi irlandaise, mais j'adore la langue, ça c'est pourquoi. Merci pour le dire. C'est bon pour moi de pratiquer mon français. Hein. Et beaucoup de fois, si j'enseigne, on parle seulement comme aux élèves, mais c'est bon de parler comme aller pour parler à propos d'une chose. À l'extérieur de l'école aussi.
Puis vous êtes en immersion, évidemment.
Oui, j'enseigne l'immersion en 7e année, un mélange de 7e année à Nelson Rowe.
Puis est-ce que vous partagez un peu de votre culture et tout ça, de cette passion-là pour les langues à vos élèves?
Moi, comme je t'ai dit, je suis tellement fière d'être irlandaise. J'ai commencé à danser à l'âge de 8 ans. Et je suis allée des étés avec Dance Caravan, des fois comme pour 5 étés. Puis ma première enseignante d'irlandaise était Michael Smith, qui venait de Boston. Après ça, j'étais comme plus avec Maureen Haley, qui venait de Boston aussi. Elle était mariée avec un Maritimer, qui venait de Saint-Jean. Et chaque été, ils sont allés ici pour comme participer dans le festival irlandais au mois de juillet. Et je vous donne info à propos de ça. Ça, c'est une fin de la semaine où toutes les choses irlandaises vont être célébrées. Et il y a des différents ateliers de la musique, de danse, de la langue. Il y a beaucoup de choses comme disponibles pour chaque âge à faire, comme spectacle à l'extérieur et à l'intérieur. Oui, et j'ai grandi avec ça. J'adorais la danse depuis longtemps. Et je voudrais maintenant partager mes compétences avec les autres. Parce que je trouve que vous voyez les visages des enfants là, quand ils étaient en train de danser, comme leur visage était comme juste brillant. Et ça touchait ma cœur ce matin. Et ça touchait ma cœur comme cet après-midi aussi, quand je les ai vus à la scène.
En terminant, est-ce que vous pourriez nous parler de ce numéro-là que votre fils, je crois, a interprété durant le spectacle?
Mon fils, Patrick, je suis tellement fière de lui. Il chante une vieille sorte de chanson qui s'appelle « Chanos ». Et ça veut dire le style vieux, le plus vieux en Irlande. Et quand on était en Irlande, beaucoup de personnes lui appréciaient à cause de ça. Parce que beaucoup des fois, on a besoin de savoir, on a besoin de protéger notre culture et célébrer la culture et célébrer nos différences. Et selon moi, si tout le monde peut le faire, tout le monde peut être comme dans un monde où on n'a pas peur d'être qui nous sommes et on peut comme les célébrer et on peut célébrer ensemble.
Hélène McDonald, vous êtes donc enseignante en immersion française à l'école rurale de Nelson et vous êtes aussi professeure de danse donc pour cette troupe-là, Nelson Doyle. Merci beaucoup d'avoir pris le temps
Merci,
de parler aujourd'hui.
Merci, oui. Bonne fête, la Saint-Patrice.
C'est Vincent Lavoie pour IJL à Miramichi.
Eh bien voilà, oui, c'est déjà tout pour nous. Merci de nous avoir tenu compagnie. Nos remerciements à nos journalistes Marie Notogali, Marie Hillès, Gaël Mpoyo, Vincent Lavoie et Elisabeth Seguin. Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Vous voulez nous dire un mot? Eh bien écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. On espère que l'émission vous a plu. À la semaine prochaine. Ciao!
points de vue, l'info locale partout au pays.
Okay, I'm here. This is Biff.
And Rawad Pampalamous from Shalabi Effect. And you're listening to CKUT 90.3 FM.
Planeta, a água doce, bebível, potável está acabando. Poluição, devastação, queimadas, desequilíbrio mental, desequilíbrio do meio ambiente. Segundo as previsões dos cientistas, padres de pastores e budistas, de ciganos, pais de santos, Hare Krishnas. O tempo vai secar e o sol vai carbonear.